puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour, soyez les bienvenus sur Radio Scarpe Sensé 94.10 pour notre rendez-vous La Puce à l'Oreille. Aujourd'hui, invité dans La Puce à l'Oreille, Amar Mouetter, joint par téléphone. Nous sommes à quelques jours du début du mois de Ramadan et du jeûne qui va rythmer ce mois. Nous allons en parler en mode confinement, évidemment, avec Amar Mouetter, vice-président de la mosquée de Saint-Lenoble. Alors, d'abord, ça veut dire quoi, Amar, vice-président de la mosquée de Saint-Lenoble ?
Bah, en fait, nous, on a créé une association cultuelle, c'est la loi 1905. En ce cas, c'est une 1901, mais adaptée au 1905, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle a pour vocation de promouvoir la pratique du culte musulman à Saint-Lenoble. Donc c'est l'association culturelle musulmane de Saint-Lenoble. Donc le but, c'est de faire vivre les actes culturels de la communauté musulmane.
C'est-à-dire être en mesure d'avoir un lieu physique, une mosquée en l'occurrence, c'est ça, permettant la célébration des rites.
Oui, voilà, tous les rituels musulmans, donc à dire le lieu, donc les prières, les grandes prières, les grandes fêtes. Voilà, après, elle peut aussi proposer l'apprentissage de l'islam. En fin de compte, elle est garante de l'apprentissage de l'islam pour ses adhérents.
D'accord. C'est elle aussi qui est en charge de recruter l'imam. Comment ça se passe ?
Déjà, ici en France, il n'y a pas de lieu de formation pour les imams publics. C'est privé, contrairement au culte israélite et protestant et catholique. Parce que faut savoir, comme ils étaient présents avant la 1905, faut savoir que l'archevêque de Strasbourg, le rabbin de Strasbourg, sont des fonctionnaires de l'État.
Oui, ça date du Concordat.
Ouais, exactement. Et nous, aujourd'hui, la formation des imams, elle est faite par deux institutions privées, donc la mosquée de Paris et Château-Chinon. Mais c'est du privé. C'est souvent, financé par des pays étatiques consulaires. Aujourd'hui, les mosquées, il y a des mosquées qui sont fédérées, donc qui ont adhéré à une fédération et qui, grâce au CFCM et aux accords de Sarkozy, bénéficient ce qu'on appelle des imams consulaires. Mais ici, localement, tu as deux types de mosquées. Soit une mosquée qui est fédérée, qui bénéficie d'un imam, consulaire, donc qui est envoyé par l'État d'Algérie, ou tout simplement, ici, c'est les adhérents qui financent, qui payent leur imam. Elles sont en autonomie indépendante.
Et vous, donc, ça se passe comment pour vous ?
À Saint-Nom, une association culturelle indépendante autonome. Nous, c'est les adhérents qui payent les travaux, qui payent l'imam. Voilà. Nous, on est en autonomie. À Douai, par exemple, à Douai, à Pont-de-la-Dole, à Douai, eux, ils sont fédérés au CFCM, à la mosquée de Paris. Donc, c'est la mosquée de Paris qui leur envoie un imam en permanence.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'un islam de France ? Comment tu le définirais, toi ?
Alors, il y a islam de France, il y a islam en France, tu vois, islam de France, islam en France et islam français. Donc là, c'est islam de France. En fait, c'est surtout pas un islam en France. Tout dépend, c'est culturel ou culturel. Quand tu dis l'islam en France, c'est reconnaître que l'islam n'est pas en France et qu'il vient d'arriver en France. L'islam de France, c'est que les Français, t'as des Français qui sont de confession musulmane, donc ça vient de l'intérieur. Donc l'islam en France, il y a une connotation d'importation de l'islam. Donc c'est l'islam de France, c'est tout simplement l'islam pratiqué par les Français. Culturellement, théologiquement, l'islam c'est le Coran et la Sunna, c'est-à-dire ce qu'on appelle les évangiles. Mais il y a l'aspect culturel. Aujourd'hui, la France est de confession musulmane. Dans le culte et la théologie, il n'y a pas de souci. Il va se retrouver comme un arabe saoudien musulman ou un pakistanais musulman. Dans le culte. Mais dans le culturel, dans la façon de vivre, il n'y aura peut-être pas les mêmes problématiques. Par exemple, aujourd'hui, il peut y avoir un enfant dont ses parents lui reprochent d'apprendre une leçon sur le polythéisme, en sixième, en histoire. Bon, on peut avoir des parents qui font un amalgame entre les faits historiques, légendaires et le culte. Donc ça, un imam de France pourra expliquer aux parents, parce que c'est des problématiques locales. La fête de Noël, comment nous, musulmans, on réagit par rapport à la fête de Noël. Le rite de l'Aïd, sachant qu'ici, le sacrifice est interdit. Donc c'est des problématiques françaises pour un citoyen français qui pratique son culte, qui sont différentes d'un Saoudien ou d'un Algérien qui vit dans un pays majoritairement musulman. Sur la pratique avec la législation locale. C'est pour ça qu'on parle d'un islam de France. Et nous, quand on parle d'islam de France, moi, je vais plus là, j'ai l'islam français. Moi, France, il devient adjectif et substantif d'islam. Islam français. C'est tout simplement, c'est la pratique du culte musulman pour un citoyen français.
Imagine que demain, je me convertisse. J'ai la foi. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir des obligations liées à la pratique du rite que je vais consentir en quelque sorte.
Bah, en fait, quand tu n'es pas musulman et tu veux te convertir à l'islam, la première obligation, c'est l'attestation de foi. Donc, c'est l'attestation de foi. Normalement, tu vas à la mosquée devant l'imam et tu attestes que l'attestation de foi qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu, Allah, et que ce prophète est Mohammed, le prophète. Ouais. Et à partir de là, tu as cinq obligations qui sont les cinq prières quotidiennes, la pratique du ramadan, une fois par an, la zakat, c'est-à-dire l'impôt, tous les ans. Tu dois prendre 2,5% de ta fortune que tu as épargnée et tu dois le donner en versant une aumône pour les pauvres ou les nécessiteux. Tu as le pèlerinage si tu es en santé, tu as les moyens. Et l'attestation de foi. Donc voilà. Donc ça, c'est les cinq obligations, les cinq piliers de l'islam. Donc ça, c'est les obligations en tant que musulman.
Donc ça n'a absolument rien de culturel. On est véritablement dans le domaine cultuel.
Là, on est dans le théologique, c'est-à-dire que ça sera la même chose pour un Américain, un Mexicain, un Australien.
Amar Moater, vice-président de la mosquée de Douai, avec nous aujourd'hui, et l'on va parler de Ramadan et de confinement, entre autres, dans la suite de cette émission. Restez avec nous.
Radio.
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 Scarpe sens.
Long is the way.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Mon invité aujourd'hui, Amar Mouater, vice-président de la mosquée de Saint-Lenoble, pour un entretien réalisé par téléphone enregistré le dimanche 19 avril. Actuellement, dans ce qu'on vit, la période de confinement dans la pratique, justement, du rite, ça a compliqué les choses ou pas ?
En fait, les prières communes sont à la mosquée. La prière à la mosquée n'est pas obligatoire. Elle est fortement conseillée. Par contre, la prière du vendredi, la grande prière du vendredi, elle est obligatoire. Tu vois, obligatoire quand tu as la possibilité. C'est-à-dire que bon, si tu travailles, t'es pardonné. Tu ne vas pas sécher ton boulot pour aller faire la prière. Donc, quand tu as la possibilité, il y a la grande prière du vendredi. Donc, c'est qui rassemble 150 personnes dans les petites mosquées jusqu'à 300, 400, 500 personnes dans les grandes mosquées. Et aujourd'hui, avec le confinement, tout a été suspendu. Sinon, après, tu as les 5 prières par jour, tu peux y aller. Bon, il y a moins de monde, mais ce n'est pas une obligation, tu peux la faire chez toi.
C'est bien vécu, ça, par les gens qui ont la foi. Comment on le vit, le fait de ne pas pouvoir...
Ici, en France, nous, il faut savoir qu'on se plie à la loi française, à la loi horizontale, pas la loi verticale divine. Parce que souvent, on dit, les musulmans préfèrent la loi divine que la loi républicaine. C'est faux, puisque quand il y a eu un confinement imposé par l'état d'urgence sanitaire, aussitôt, toutes les instances culturelles musulmanes françaises ont obligé les mosquées à fermer, parce qu'on respecte la loi. Mais théologiquement, ils ont consulté les imams, les théologues, et ils ont dit que quand il y a un danger de mort, c'est pas grave, on peut fermer une mosquée. C'est pas le plus important, c'est l'aspect vital. Donc voilà. Donc non, la communauté musulmane, ils ont réagi comme des citoyens français face à une urgence sanitaire.
Le Dieu, il réclame aux fidèles à vivre avant tout.
Ah oui, parce que l'unanimité des ulamas, c'est les grands penseurs qui étudient les textes et qui font des fatwas dans le sens noble, c'est-à-dire qui disent voilà les prescriptions, parce que faut contextualiser le Coran, qui est un texte qui est intemporel et immuable, mais qui a été descendu au Moyen-Âge, donc faut le contextualiser. Et il s'avère que dans les histoires, dans les évangiles, comme nous on dit les hadiths, il y a eu des pandémies au temps du prophète, et il y a eu des exemples du prophète où il a conseillé aux personnes de rester chez eux, chez elles, et de prier chez elles, et que l'important, c'est la vie. Faut le savoir, ça. L'islam ne demande pas de mourir, ni de tuer. Donc, contaminer quelqu'un, c'est prendre un risque. C'est pour ça que, la communauté musulmane locale ici a très bien vécu la chose, ils sont patients, ils attendent, et puis pour le ramadan,
On va en parler. Ça arrive à Ramadan. Là aussi, ça va être une édition un peu spéciale. Comment ça se passe en temps ordinaire ? C'est une période de fête, c'est une période de jeûne, mais une période de fête également ?
Alors, en temps ordinaire, comment ça se passe ? En temps ordinaire, le Ramadan, c'est surtout une période de cheminement intérieur, de spiritualité. Dans la journée, être à jeun, c'est pas que ne pas manger. C'est vraiment tout un travail de cheminement intérieur. C'est de se mettre à l'état le plus basique, c'est-à-dire à jeun. Et quand tu as l'estomac vide, tu penses autrement, tu as la faim. Donc tout un travail spirituel. Et le soir, ce qui est convivial, c'est la rupture du jeûne. Et elle se fait en famille. Donc là, ça pose pas de problème, ça change pas. Bon, à part qu'on pourra pas aller chez les parents, quand on va chez les parents ou on invite les parents. Bon là, ça sera seulement dans le noyau familial. Mais aussitôt après, au soir, il y a ce qu'on appelle la grande prière du Talawah. C'est-à-dire, tous les soirs, en fin de compte, comme le Coran est descendu pendant le Ramadan, du 1er au 29e jour ou au 30e jour, tous les soirs, il y a lecture du Coran en groupe. C'est-à-dire qu'il y a une prière en groupe. Cette année, on ne le fera pas. Parce qu'il est interdit de se réunir en groupe, parce que les mosquées seront fermées.
Est-ce que cette lecture, elle peut se faire seule ? Est-ce que...
Oui. Donc, tu peux chez toi au soir faire ta prière et faire ta lecture en famille ou tout seul. Non, c'est pas une obligation. C'est conseillé, mais c'est pas une obligation. Il faut savoir qu'en temps normal, t'en as qui n'y vont pas au soir. Ils mangent, ils restent en famille, puis c'est tout. Ils n'y vont pas. Puis t'en as qui y vont, tu vois, à la mosquée le soir.
Est-ce qu'il va y avoir des alternatives numériques
Alors. Comment ça se passe? Il y a le vendredi, la prière du vendredi, en deux phases. En fait, il y a ce qu'on appelle un discours. Pendant une demi-heure, l'imam fait un psaume, fait un discours à la communauté. au niveau théologique, sur le Coran, sur le thème actuel, sur les hadiths, les exemples, la vie du prophète, tout. Et après aussi, tout après ce discours, ben, il y a une prière commune. Donc là, qu'est-ce qui se passe le vendredi à la même heure? Et ben, sur Facebook, t'as des imams, t'as des mosquées qui filment l'imam, comme la messe de Pâques, mais il fait le discours, mais après la prière, tu la fais tout seul chez toi. En tout cas, il n'y a pas de prière de groupe.
D'accord. Ce sera un ramadan tout à fait particulier tout de même, cette année.
Ah bah, ça sera exceptionnel, comme l'année scolaire, comme l'année sportive, comme les fêtes de Gaor qui ne se feront pas. Donc, ça sera exceptionnel. Ça sera, pour tout le monde, ça sera une première. Mais voilà, il faut savoir qu'à la Mecque, là où il y a la Kaaba, et bah, elle est vide. Et l'Arabie Saoudite aussi a annulé toutes les prières de groupe.
Est-ce que si l'on est malade, on peut ne pas faire ramadan parce qu'on a besoin justement de recouvrer les forces?
La prescription, c'est quoi? C'est que si tu as les capacités physiques et de santé, tu es obligé de faire ramadan pour être un bon musulman. Par contre, si tu es malade, si tu as un traitement, si tu es faible, il est fortement déconseillé que tu le fasses, voire interdit que tu le fasses. Par contre, pour pallier à ça, si tu es malade et c'est juste chronique, tu récupères, tu as un an pour récupérer. Donc, par exemple, je sais pas moi, aujourd'hui, je fais ramadan, j'ai le Covid-19, j'ai 40 de température, ben, je vais pas le faire parce que je suis malade, mais je pourrais le rattraper. Donc, je vais attendre l'hiver où les journées sont plus courtes et je vais faire ramadan, je vais rattraper mes jours. Par contre, celui qui est malade, qui a du diabète, qui a un traitement comme mon père et tout, eux, ils doivent sortir en argent. C'est-à-dire que chaque jour, ils sortent 5 € pour ceux qui ont des moyens financiers et ils les donnent à un malheureux. Donc c'est vraiment si t'es en bonne santé, faut savoir. L'islam c'est la vie. On va jamais mettre en difficulté la vie d'un fidèle. Et ça tout le monde le sait. Après t'en as ils sont tellement têtus, bornés, bah qui tentent de le faire quoi. Alors que non, c'est pas ce qu'on te demande. C'est clair, tout le monde c'est accord unanime sur le fait que si t'es pas en bonne santé, tu n'as pas à faire ramadan. Si ton docteur te dit tu fais pas ramadan, bah tu fais pas ramadan. Par contre tu le payes. C'est-à-dire que tu sors l'équivalent de 5 € par jour et ou bien tu fais un repas. À la fin, tu fais un grand repas puis tu le donnes en aumône à des malheureux, à des SDF, à des centres d'accueil.
Amar Mouater, vice-président de la mosquée de Saint-Lenoble. La suite de cet entretien, et l'on va parler des rites funéraires musulmans en période de confinement, ce sera juste après la pause musicale à Alanis Morissette.
Radio Scarp Sensé, la puce à l'oreille.
Hi, ragamen getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Oh. Hi, ragamen walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. Check it through. It feels so good. Swimming in your stomach. Wait until the dust settles. You live, you learn, you love, you
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Dernière partie de l'entretien enregistré avec Amar Mouater, vice-président de la mosquée de Salenoble, enregistrement du dimanche 19 avril 2020. Et une autre question est un peu plus délicate à aborder quand même.
Dis-moi.
Des gens ont ce souhait exprimé de leur vivant d'être enterrés sur la terre de leur famille de l'autre côté de la Méditerranée. Comment ça se passe actuellement dans cette période ?
Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une situation d'état d'urgence sanitaire. La DGS, la Direction Générale des Santé, ils ont dit que quand une personne est morte du Covid-19, même morte, elle pourrait, diffuser le virus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un protocole. Donc, le protocole, c'est quoi ? C'est qu'une fois qu'il est mort, il va directement dans un sac hermétique et le cercueil sous-scellé. Mais le problème, c'est que dans le rituel musulman, quand il y a un défunt, il y a un rituel musulman, c'est-à-dire qu'il est lavé, on lui fait ses ablutions, et après, on le met dans ce qu'on appelle un drap, un kfen, c'est-à-dire qu'il doit être enveloppé, emmailloté d'un drap. Et à partir de là, il peut être enterré. La seule prescription pour l'inhumation, c'est direction la Mecque. Maintenant, le problème, c'est que comme il y a un état d'urgence de santé, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux problématiques. La problématique, c'est que quand il y a une personne qui décède de confession musulmane, elle ne peut pas bénéficier du rituel du lavage mortuaire. Donc ça, toutes les instances culturelles théologiques de France ont dit, c'est pas grave, ça fait partie des choses. Il n'y a aucun problème en cas de pandémie, voilà, il n'y a pas de souci. Ils ont rassuré la communauté en disant c'est pas grave. On est dans une situation exceptionnelle et à titre exceptionnel, voilà, on peut déroger et puis ils sortent vraiment les versets et les références coraniques et aussi évangéliques. Alors, je dis évangélique, c'est la vie du prophète, les exemples. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc les familles, on se dit bon, on fera pas le lavage mortuaire. Deuxième chose, il y a la prière mortuaire. C'est-à-dire que là, c'est à la mosquée, tout le monde se rassemble, on fait une prière pour le défunt. Donc là, il n'y a pas la prière mortuaire non plus. Donc c'est pas grave. Tous les imams nous ont dit, il n'y a aucun problème, situation exceptionnelle, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est quoi ? Deux problématiques. Il y a des familles qui souhaitent être enterrées dans les terres de leurs aïeux. Le rapatriement est interdit. Sauf pour l'Algérie qui acceptait les défunts non atteints du Covid-19. Le Maroc, non, il n'y acceptait plus. Donc voilà, donc plus possibilité de rapatrier le corps. Donc là, il y a eu des situations d'urgence à régler. Donc nous, ici, localement, on s'est vu, on a mis en place certaines choses, parce qu'il y a la question du carré confessionnel. C'est quoi ? C'est que, dans le cadre de la loi 1905, le maire peut proposer un carré confessionnel, afin que le citoyen puisse...
être inhumé en fonction du rituel.
Mais c'est au bon vouloir du maire. Le ministère de l'Intérieur, à travers une circulaire de Alliomari, n'a jamais obligé les maires, mais il a fortement conseillé les maires à le faire. Mais le maire le veut ou pas, d'accord, à Douai, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que il y a des personnes, quelqu'un qui décède à Courchelette, par exemple, un Courchelette de confession musulmane qui souhaite enterrer dans son pays, il ne pourra pas. Mais par contre, il sera obligé d'être en France. Et qu'est-ce qui a la compétence des carrés cimetières ? C'est la municipalité. Donc, il sera enterré en Courchelette. Donc, si à Courchelette, il n'y a pas de carré confessionnel, ça va être très embêtant. Donc, nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, nous, on s'est vu les présidents de mosquées et tout. On a fait une situation d'urgence et on a écrit à nos maires. Après, il y a eu un gros travail de Karim, le président de Douai, qui a demandé au maire de Douai, à titre exceptionnel, et le maire de Douai, à titre exceptionnel, il a accepté que durant la pandémie, que tout douaisisien, donc qui habite dans la communauté d'agglomération de Douai, de confession musulmane et qui est enterré, qui n'a pas de cimetière confessionnel, pourrait être enterré à Douai, au carré confessionnel de Douai.
D'accord. Finalement, on nous parle toujours comme si c'était un problème de la laïcité en France. On parle, pour ne pas parler peut-être même d'un problème musulman, on parle d'un problème de laïcité. On est quand même dans un chouette pays où tout est bien pensé, au final, non ?
Ah ben moi j'ai toujours dit que notre pays était le pays des Lumières et que la laïcité, c'est la plus belle chose qui a été faite dans le respect des libertés, de ne croire ou pas croire. Et bien sûr. Mais Hervé, tu pourras entendre un Français de confession musulmane dire la France c'est de la merde, ils aiment pas les musulmans, comme tu pourras entendre un gilet jaune dire Macron c'est un enculé, il aime pas les rémistes. Tu commences à le dire. Donc il y a un moment, faut voir où on se place. Donc la critique envers l'État, c'est selon le vécu de la personne et comment dire, ses connaissances.
Ça se souhaite un bon ramadan, comme on peut fêter de bonnes fêtes de Noël.
Bien sûr. Alors, le ramadan, c'est le nom du mois. Tu vois? En fait, nous, on fait le jeûne du ramadan. Tu vois? C'est comme si, on va pas dire, je te souhaite un bon janvier, mais tu vas dire, je te souhaite, par exemple, je te souhaite pas un bon décembre, je te souhaite une bonne fête de Noël à décembre. Donc, je te souhaite ce qu'on appelle un bon jeûne, pour le mois du ramadan. Parce que ramadan, c'est le nom du mois.
Et quand tu parlais de cette spiritualité qui se révèle par le jeûne, par enfin voilà le fait de se recentrer, peut-être un moment d'introspection également, on peut faire le parallèle avec les gens qui entreprennent des démarches, par exemple ceux qui se disent ben voilà je fais un pèlerinage en marchant pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, me recentrer sur moi-même. On est un peu dans la même démarche.
Bah écoute, tu sais, le confinement actuel, si c'est pas aux yeux des êtres humains tout un questionnement et un cheminement, c'est voilà, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas cette spiritualité. Toi, t'en as une de spiritualité. Tu penses, moi, je reste persuadé, je le signe, t'en as une. Au fond de toi, il y a quelque chose. Tu vois, toi, t'es un réfractaire au niveau des religions, du dogme, mais t'as quelque chose au fond. Tu vois, c'est-à-dire t'as une spiritualité. La différence entre spiritualité et religion, c'est que dans la religion, il y a le dogme, tu vois. Mais la spiritualité, allez, c'est avant tout un cheminement intérieur. Et le confinement, toute personne athée, agnostique ou croyante, à un moment ou l'autre, s'est remis en question au fond de lui-même. Aujourd'hui, au Ramadan, le jeûne, c'est le prétexte.
Demain,
Attends,
t'as
attends.
pris des œufs.
Attends, je suis au téléphone, dans 2 minutes,
Attends,
tu attends.
demain, je pourrais mettre les œufs de Pâques dehors.
Oui, j'en ai ramené, tu l'as vu?
Ouais.
Ma fille, elle m'a dit.
Ah, je remarque qu'on met des œufs de Pâques également dehors chez toi.
Bah, écoute, mes enfants, ce sont des enfants. Ça, c'est moi, voilà, j'ai acheté des œufs de Pâques, ils sont dans le garage, on va les mettre dans le jardin, ils vont chercher des œufs. Mais Pâques n'est. Est-ce que c'est une fête païenne, c'est une fête chrétienne, ou c'est plus une fête, maintenant c'est une fête commerciale? C'est toute l'intelligence. Enfin, comment mes enfants, je les vois comme des enfants. Et c'est pas parce que je leur dis, non, c'est pas ça, c'est pas notre religion de cacher des œufs, qu'ils vont devenir plus musulmans ou pas. Voir si on a la tolérance, ça commence par là. Ben ouais, donc ils sont là, mes enfants, demain on va cacher les œufs. Ils vont retenir quoi, mes enfants? Ils vont bouffer du chocolat à gogo. Et tout enfant qui ont cherché des œufs dans Pâques, des œufs de Pâques, combien sont ceux qui sont réellement catholiques ou chrétiens? Pâques est commercial comme Noël. Voilà. Donc le jeûne, voilà. Aujourd'hui, tous les grands médecins te diront que jeûner, c'est très très bon pour le corps. Tu vois?
Bien. Bah, en tout cas, je te remercie de m'avoir répondu comme ça, brûle pour point.
Il n'y a pas de souci, je suis toujours là pour ça. Et tu sais, Hervé, les médias ont une responsabilité. La responsabilité de donner l'information, mais aussi un aspect pédagogique et d'échange, c'est important. Et c'est l'ignorance qui met dos à dos les personnes. Moi, ce que je te dis là, c'est mes parents qui m'ont appris, c'est ce qui se dit dans le douaisis. On a grandi comme ça. Il y a eu une période des attentats, il y a eu un après 11 septembre, où tout a été focalisé sur une pensée minoritaire terroriste. Et tout a été focalisé sur ça, et ils ont oublié et fait fi de toute cette majorité très spirituelle de l'islam. Tu sais que 93% du Coran est complètement spirituel. Et 7%, c'est ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la règle. Donc, on est là pour répondre aux questions des journalistes. On est tous maîtres d'un élève, hein, et tout est transmission. Tu sais que le premier mot qui est descendu du Coran, c'est ikra, c'est-à-dire apprends. Et la relation maître-élève, c'était la relation de l'archange Gabriel et du prophète, où il y avait une relation maître-élève. Tout est enseignement. Tout est enseignement, tout est savoir. Et voilà, et quand il y a une transmission du savoir, voilà, une fois, comment dire, le savoir n'existe que s'il est transmis. Tu vois, aujourd'hui, s'il y a de l'amalgame, s'il y a des gens qui se frappent dessus, qui se tuent, c'est parce qu'ils se connaissent pas. Et la tolérance, ça, la laïcité, c'est ça. La laïcité, c'est aussi la liberté de croire ou ne pas croire, faut pas oublier.
Amar Moiter, vice-président de l'association cultuelle La Mosquée de Saint-Lenoble, était aujourd'hui l'invité de la puce à l'oreille, un enregistrement téléphonique du dimanche 19 avril 2020, et à toutes celles et ceux qui s'apprêtent à vivre le mois du Ramadan, eh bien, je leur souhaite donc un bon jeûne. de Ramadan. Et restez fidèles à Radioscape 100.cé. Je vous souhaite une agréable journée.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radioscape 107.